Écho d'économie.
Au sommaire de votre journal de l'économie, projet du corridor Lobito, l'Union européenne et les États-Unis appellent à un cadre de financement stable pour un développement intégré alliant transport, agriculture, énergie et connectivité régionale. Les travaux de réhabilitation routière paralysent la mobilité et freinent les activités économiques à Kinshasa. Les habitants et commerçants appellent à des mesures urgentes. Bienvenue à tous. Parlons d'abord du projet des connexions au port de Lobito. L'ambassadeur de l'Union européenne en RDC souligne l'importance de garantir un cadre de financement stable pour la concrétisation de cette initiative qu'appuient également les États-Unis d'Amérique. Dans un entretien lundi entre le ministre congolais des Transports, le chef de la diplomatie européenne et l'ambassadrice des États-Unis en RDC, Nicola Berlanga Martinez, a indiqué que des discussions sont en cours entre les autorités congolaises et des institutions financières internationales à ces sujets. Il a par ailleurs mentionné l'importance stratégique du corridor qui dépasse le simple transport des minerais. D'après lui, ce projet englobe aussi l'agriculture, l'énergie, les infrastructures et la connectivité. Il constitue une opportunité unique pour un développement intégré de la région. Rappelons que ce corridor a pour ambition de relier l'océan Atlantique à l'intérieur du continent grâce à un réseau de transport ferroviaire moderne. La République démocratique du Congo appelée à ratifier les deux accords majeurs de l'Organisation mondiale du commerce sur la facilitation des échanges, ce qui devrait moderniser le commerce extérieur de la RDC et entraîner des subventions, notamment à la pêche. C'est le ministre congolais du commerce extérieur, Julien Paluku, qui a plaidé à travers une note d'information qu'il a soulevée au cours de la 44e réunion du Conseil des ministres de vendredi dernier. Ben Chokuta pour les détails.
Selon le ministre, ces textes représentent des enjeux cruciaux pour la diversification économique, l'industrialisation du pays et l'attraction des investissements étrangers. Il s'agit notamment de l'accord sur la facilitation des échanges et celui sur les subventions à la pêche. La ratification de l'accord sur la facilitation des échanges pourrait permettre à la RDC de se positionner comme une véritable plateforme logistique régionale. Elle contribuerait aussi à renforcer la compétitivité nationale, à diversifier les exportations et à moderniser les institutions commerciales. Autre annonce, Julien Paluku s'est engagé à régulariser les cotisations impayées de la RDC à l'OMC sur les trois dernières années. Une mesure qui pourrait ouvrir la voie à de nouveaux financements et renforcer la position du pays sur la scène commerciale internationale.
Rendons-nous en Ituri. Le territoire de Djougou est aujourd'hui l'une des entités de l'Ituri où la population vit dans la précarité à cause de l'insécurité. Pourtant, son sol offre des opportunités gratuites pour pratiquer l'élevage et l'agriculture. Ces propos sont du président de la société civile du groupement de Sesele dans le secteur de Walindou-Dzati dans un entretien téléphonique accordé lundi à Radio Okapi. Ce dernier salue la reprise du marché de Djina lundi après la tension communautaire qui a prévalu la semaine dernière dans cette région. Il encourage les uns et les autres à œuvrer pour la paix en vue de tirer profit des innombrables richesses dont regorge cette province. Aliamini Vouva est joint au téléphone par Jean-Claude Lokidile.
Aujourd'hui, nous sommes condamnés à vivre avec les deux communautés. Dans l'État, on appelait Bounia viande. Si on voit au point économie, nous consommons la viande qui vient de Ouganda, même l'haricot qui vient de l'Ouganda. Alors, notre terre qui est fertile, et puis on voit seulement si les haricots même tombent sur les terres, ça doit toujours produire. Dans l'État, il y avait de la viande aussi ici à Bounia pour aller à Kinshasa, à Kisangani, même l'haricot, voire même les choux, les avocats. Mais maintenant, avec la situation qui se passe particulièrement à Djougou et Iroum, non, ça n'honore pas les sources qu'on rentre comme on était auparavant. Les populations doivent se sentir à l'aise pour travailler au champ. Les orpailleurs doivent se sentir à l'aise pour aller creuser de l'or. Alors, ça fait déjà un point capital pour notre économie, le territoire de Djougou.
À Kinshasa, les travaux de réhabilitation lancés sur plusieurs axes routiers impactent négativement les activités socio-économiques dans la capitale. Des commerçants disent éprouver des difficultés pour se ravitailler ou écouler leurs marchandises en raison de l'état des routes. La population, quant à elle, fait face à de nombreux obstacles pour se déplacer et appelle à des solutions urgentes. Les explications avec Blaise Ndongala.
Plusieurs routes de la ville-province de Kinshasa subissent une véritable cure des jouvences, rendant ainsi
la mobilité est quasi difficile. Cette situation entrave la situation socio-économique en paralysant les activités économiques dans la capitale. Bien qu'il n'y ait pas de chiffres précis et récents pour le coût total des embouteillages à Kinshasa, on peut estimer son impact à travers plusieurs facteurs. Les Kinois passent des heures dans les transports, réduisant les temps disponibles pour le travail ou les loisirs. Ces retards fréquents au travail ou au rendez-vous d'affaires entraînent une baisse de la productivité et peuvent générer des pénalités financières. Et les entreprises de transport et de logistique sont directement affectées avec des retards de livraison qui augmentent les coûts et peuvent nuire à leur réputation. Il faut par ailleurs signaler que les arrêts fréquents et les redémarrages dans les embouteillages augmentent considérablement la consommation de carburant, ce qui représente un coût direct pour les conducteurs et les entreprises.
Écho d'économie.
Écho d'économie reçoit Blaise Baïssé, coordonnateur national de Congo Peace Center, cet ASBL qui traite des questions de paix, de gouvernance et de développement, tient à Kindu des journées de réflexion sur la problématique de la contribution du secteur minier au développement durable du Maniema et du Tanganyika. Blaise Baïssé s'entretient avec Florence Kizalunga.
Monsieur Blaise Baïssé, bonjour.
Bonjour Madame Florence.
De quoi sera-t-il question durant ces journées de réflexion ici?
Il s'agit d'un atelier de réflexion sur la contribution de l'exploitation minière sur le développement de la province de Maniema. Il s'agit plus concrètement d'évaluer le niveau de mise en œuvre des résolutions de la conférence minière qui avait lieu ici en 2024 et de voir ce qui a été fait. Pourquoi la province de Maniema, qui est potentiellement riche en minerais, tarde à se développer et à décoller? C'est ça que nous sommes venus voir avec les participants qui sont venus de tous les territoires, ainsi que des organisations de la société civile qui vont parler au nom des communautés affectées par l'exploitation minière et qui vont présenter aux autorités provinciales leurs revendications par rapport à l'exploitation minière et au développement de leur communauté.
Ces évaluations vont apporter quoi pour la province du Maniema?
La première chose, c'est d'abord responsabiliser les communautés locales. Les communautés locales doivent s'approprier l'exploitation minière et faire en sorte que les entreprises minières qui vont être installées là-bas ou qui sont installées là-bas, ainsi que l'exploitation totale des mines, même par les artisanaux, contribue effectivement au développement local. Mais pour cela, il faut que les questions de responsabilité sociale des entreprises soient connues par la population et qu'ils en fassent leurs droits et qu'ils réclament au gouvernement d'appliquer ce qui se trouve dans les codes miniers. Il n'y a que par ces revendications que la population pourrait obtenir gain de cause par rapport à l'exploitation minière.
Mais les revendications de la communauté sont toujours connues. Aujourd'hui, pour Congo Peace Center, c'est quoi la nouveauté? Qu'est-ce que vous cherchez en profondeur dans les revendications de la communauté?
La nouveauté, c'est de mettre les communautés bénéficiaires en face des autorités et des entreprises minières. C'est vrai que les communautés, les populations ont toujours revendiqué, mais ils n'ont jamais eu de cause parce que justement les revendications n'ont jamais été portées directement aux autorités. À l'issue de l'atelier de Kindu, comme c'était le cas aussi pour l'atelier de Kalemie, les participants, les délégués de Maniema et de la province de Tanganyika vont se retrouver à Kinshasa la semaine prochaine en face du ministre central des mines, des plans, de défense et de l'économie et des finances pour dire clairement ce à quoi ils ont droit par rapport à l'exploitation minière et demander directement aux entreprises, au siège des entreprises à Kinshasa et au ministre de pousser les entreprises, les exploitants miniers à verser pour les comptes des ETD et de la province des redevances minières et à signer les cahiers des charges pour qu'en fait, on amorce le développement de la province.
Quel espoir que ces assises peuvent donner à toute la communauté?
Ça veut dire que la communauté peut, cette fois-ci, avoir l'occasion de poser clairement les problèmes au gouvernement central et d'obtenir du gouvernement central l'engagement clair aux côtés des exploitants, qu'ils soient industriels, qu'ils soient des coopératives, pour le bien-être des populations. Car c'est une question de responsabilité sociétale. Si nous, population, nous n'avons pas la possibilité de dire à ceux qui viennent exploiter nos minéraux, exploiter nos ressources, si nous n'avons pas la possibilité de leur parler et de les pousser à verser les redevances aux populations, ou si ces entreprises sont protégées par le pouvoir central ou par le gouvernement central ou par les militaires, là c'est une situation chaotique. Et c'est ce que nous sommes en train de constater partout où les ateliers ont été organisés. Essayer de briser la glace, essayer de briser ces obstacles qui empêchent à la population d'obtenir ce à quoi elle a droit afin qu'elle sorte de la misère.
Alors c'est quoi l'objectif visé de Congo Peace Center en organisant ces ateliers avec le financement des OIM?
L'objectif principal des ateliers sur les mines et le développement est d'abord participer, contribuer au processus de pacification qui sont en cours dans les pays. En fait, la question des mines a été soulevée aux réunions de Nairobi où s'étaient retrouvés les délégués de Maniema, de Haut-Katanga, de Sud-Kivu, du Nord-Kivu et de Tanganyika ainsi que de Bunia, où ils ont clairement exprimé que pour arriver à une paix durable en RDC, il faut que la question de la gouvernance minière et de la contribution de l'exploitation minière au développement soit clairement résolue. Sans que cette question soit résolue, sans que les autorités puissent se mettre en place des conditions qui favorisent une bonne exploitation minière. Et si cette exploitation s'est faite au détriment des populations, les jeunes se verront dans l'obligation, se trouveront prêts à se faire manipuler par les groupes armés et il n'y aura pas de paix durable en RDC. C'est donc pour contribuer tant soit peu à la pacification de la paix que Congo Peace Center reçoit ces financements de l'OIM pour que les populations puissent apporter auprès des décideurs leurs revendications pour leur développement.
Monsieur Blaise Baïssé, merci.
Merci beaucoup.
C'est par ici que prend fin cette émission présentée par Justine Moussaou. Merci de nous avoir suivis.